Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 6h.
Il y a un vrai engouement, un élan vaccinal qu'il ne faut pas briser. Et au contraire, il faut pouvoir y répondre. Et y répondre de manière extrêmement large sur l'ensemble des professionnels de santé.
Un vaccin pour l'exemple. Face à la lenteur de la vaccination dans le pays, les soignants appellent à accélérer le mouvement. Les professionnels de santé de plus de 50 ans ont désormais le droit de se faire vacciner.
L'armée française, une nouvelle fois touchée au Mali, une semaine après l'attaque qui a tué 3 militaires. 2 autres soldats sont morts hier dans l'explosion de leur véhicule.
Un an, jour pour jour, après la mort de son mari lors d'une interpellation violente, Doria Chouvia s'exprime sur Europe 1. Elle qui dénonce toujours les violences policières, appelle à une marche blanche cet après-midi.
Et puis en football, les joueurs parisiens ont un nouvel entraîneur. Il s'appelle Mauricio Pochettino. On vous le présente en fin de journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Comment rattraper le retard de la France en matière de vaccination? Après un début de campagne plus que poussif, le gouvernement veut désormais accélérer le mouvement.
Et tenter de rassurer les Français sur les stocks et la logistique. Dès demain, tous les soignants de plus de 50 ans vont ainsi pouvoir se faire vacciner à leur tour. Ils ont été intégrés au public prioritaire. C'est une manière d'accélérer le processus, mais aussi de donner l'exemple. Et il y a urgence. Tellement que dans certaines zones, on n'a pas attendu le début de semaine pour vacciner les soignants. C'est déjà fait à l'Hôtel Dieu à Paris. Reportage de Pierre Herbulot.
Des blouses blanches qui vaccinent des blouses blanches. Dans un petit box des urgences de l'Hôtel Dieu, les soignants de plus de 50 ans reçoivent l'injection 2 jours plus tôt que prévu. Le docteur Serge Morel attend la sienne dans une petite file.
Ah ben c'est très bien, c'est une belle initiative qu'on puisse se faire vacciner rapidement et on a pris un peu d'avance et c'est une bonne chose.
Un pansement sur l'épaule gauche, l'anesthésiste Marc Samama est fier d'être vacciné mais aussi de voir la campagne démarrer réellement.
On accélère et je suis sûr qu'à la fin du mois de mars, on sera dans les mêmes chiffres que les pays voisins et que les comparaisons stupides qui sont faites actuellement n'auront plus lieu d'être.
Les appels affluent à l'hôpital, la cadence va donc augmenter dans les prochains jours, prévient Frédéric Batteux, le responsable médical de l'Hôtel Dieu.
Aujourd'hui c'est un box, vous l'avez vu, demain ça en sera 2 et puis après-demain encore plus. Comme je vous le disais, il y a un vrai engouement, un élan vaccinal qu'il ne faut pas briser et au contraire, il faut pouvoir y répondre. Et y répondre de manière extrêmement large sur l'ensemble des professionnels de santé de plus de 50 ans, dans la plus grande diversité.
Réanimateurs, biologistes, infirmiers, à Paris ce week-end, une centaine de soignants vont être vaccinés.
Reportage de Pierre Herbulot. Dans les hôpitaux, on observe une nouvelle hausse du nombre d'entrées en réanimation pour des cas de Covid. Nouvelle hausse après les baisses de ces derniers jours. Par ailleurs, plus de 2000 clusters sont toujours en cours d'investigation. Et les autorités d'ailleurs redoutent les conséquences de la rave party de Lieuron en Bretagne. La fête est finie. Les 2500 participants sont invités à se faire tester et à s'isoler par précaution. Hier, 8 personnes ont été placées en garde à vue, dont 2 soupçonnées d'avoir organisé le rassemblement illégal.
L'annonce est tombée tard dans la nuit. 2 militaires français ont été tués au Mali.
Un homme et une femme tués dans l'explosion de leur véhicule. Ils étaient engagés au Mali dans la force Barkhane, victimes donc d'un engin explosif, comme 3 de leurs compagnons d'armes tués lundi dernier dans des circonstances similaires. Écoutez les précisions du porte-parole de l'état-major des armées, Frédéric Barbry.
Hier, lors d'une patrouille de reconnaissance et de renseignement, au nord de Ménaka, un véhicule blindé léger de la force Barkhane, qui était armé par 3 militaires, a été touché par un engin explosif improvisé. Et en dépit des soins prodigués immédiatement par le secouriste du détachement, le sergent Yvonne Wynn et le brigadier Loïc Risser ont succombé des suites de l'explosion. Ces 2 militaires français étaient originaires du 2e régiment de Hussards, qui est situé dans la ville d'Agno. C'est bien évidemment une émotion qui est toujours palpable chez les militaires, puisque la perte de camarades au combat qui sont morts pour la France n'est jamais anodine. Et pourtant, je peux vous assurer que la détermination de la force, la détermination de l'opération Barkhane reste intacte pour la poursuite de la mission. Cela montre que les combats sont encore difficiles et qu'il reste une partie de la mission à accomplir.
Le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l'état-major des armées. Hier soir, Emmanuel Macron a salué la mémoire des 2 soldats. Ils incarnent l'honneur et la bravoure, ce sont les mots de la ministre des armées, Florence Parly.
Oui, ces 2 soldats étaient engagés donc contre le terrorisme au Mali. Cette attaque intervient alors qu'on est en plein débat sur le fait de savoir si on doit maintenir la force Barkhane telle qu'elle dans ce pays. En reviendra sur tout cela avec Laurent Nunez, coordinateur national de la lutte contre le terrorisme. Il sera l'invité du grand rendez-vous à 10h tout à l'heure sur Europe 1. 6h04, la vidéo de son interpellation violente. Elle avait fait le tour des réseaux sociaux, c'était il y a un an.
Cédric Chouvia, livreur à scooter, est mort après un plaquage ventral réalisé par des policiers. Un an après le drame, 3 fonctionnaires sont toujours mis en examen pour homicide involontaire. Doria Chouvia, la veuve de Cédric Chouvia, appelle à une marche silencieuse cet après-midi. Elle s'exprime sur Europe 1.
Mon mari est mort pour rien. Alors, on essaye de faire de sa mort une belle cause, en fait. Parce qu'on se dit, y a rien qui le fera revenir. Alors, faut pas qu'on oublie et faut qu'on tire des leçons, en fait, de ce qui s'est passé. L'affaire de Cédric, elle est emblématique parce qu'elle est complète. En fait, on a un cas pratique sur les dérives, justement, de la police. On a un cas pratique de l'importance des vidéos, l'importance des témoins. On est là pour dire, souvenez-vous. On est là pour dire c'est pas normal et on est là pour dire non à la loi sécurité globale, parce que la loi sécurité globale elle arrive derrière ce flagrant délit pour dire plus le droit de filmer les policiers. Mais nous, ça, on peut pas l'accepter, parce que dans notre malheur, comme on le dit depuis le début, la seule chance qu'on a eue, c'est ces vidéos. Donc vous imaginez, si on n'avait pas ces vidéos, ça serait une double peine pour nous. Déjà la peine d'avoir perdu la personne qu'on aimait le plus. Et en plus de ça, pas pouvoir lui rendre justice.
Doria Chouvia, la veuve de Cédric Chouvia, avec Marion Dubreuil. En Dordogne, un jeune homme est mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Il a été placé en détention provisoire. Le 31 décembre, lors d'un réveillon déguisé, il a tiré sur l'un de ses amis, pensant son fusil déchargé.
Peut-être vous faites partie de ceux qui avaient à l'époque investi dans cette cryptomanie qui, pour certains, était présentée comme un gadget. Eh bien, elle refait surface ces derniers mois. Le Bitcoin est de retour et bat tous les records.
Ouais, et pour la première fois de son histoire, le Bitcoin dépasse les 30 000 dollars, très très en vogue en raison de la crise économique. Laura Taouchanoff.
C'est une sorte d'épée de Damoclès. Avec quelle férocité s'abattra la crise financière post-Covid? Alors pour tenter de limiter la casse, de plus en plus d'investisseurs, des entreprises, mais aussi des particuliers, parient sur le Bitcoin, comme l'explique le directeur de Montségur Finance, François Chollet.
Pour faire face à la crise et à la Covid, eh bien, le Bitcoin fait l'objet de placements plutôt de précaution, un refuge comme a pu être l'or en d'autres périodes, avec l'idée que si tout va mal, le Bitcoin est une solution dans un univers un peu parallèle au monde financier, ce que l'on peut connaître avec les moyens de paiement traditionnels.
Mais attention, une envolée peut parfois cacher un effondrement, prévient Christopher Dembick, le responsable des recherches économiques chez Saxo Bank.
Cette hausse de 10 000 dollars en l'espace de quelques semaines, elle peut tout aussi bien se traduire dans les 15 prochains jours par une baisse de 10 000 dollars, voire une baisse de 15 000 dollars. C'est un investissement très risqué qui est soumis à de très très fortes volatilités.
Diversifier, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les experts recommandent de ne pas investir plus de 5% de son argent dans le Bitcoin.
Les précisions de Laura Taouchanoff.
J'ai dit cryptomanie, c'est crypto-monnaie, bien sûr. À chaque fois, c'est un petit événement. On connaît la date de la sortie du nouvel Astérix.
Alors, ça n'est pas pour tout de suite. Pierre, ce sera le 21 octobre prochain. C'est une information de nos confrères du Journal du Dimanche. Cyril Petit a pu interviewer le scénariste Yves Ferry.
Ce sera un album de voyage. Une fois sur deux, Astérix et Obélix partent en voyage. Donc là, ils vont partir. Ce qu'on peut donner comme indice, c'est qu'ils vont très loin, dans un endroit où ils ne sont jamais allés. Donc les fans d'Astérix pourront s'amuser à trouver. Ils vont dans un pays qui n'existe plus en tant que tel. Et puis on sait aussi que Panoramix sera du voyage. Et on croit savoir aussi qu'il y a une histoire de prisonnière dans cette affaire. Le Covid ne sera pas au cœur de l'aventure, mais il y aura quelques petites références. Et en tout cas, cette année, on sait qu'Astérix a bien profité, si on peut dire, de la crise, puisque les ventes des précédents albums ont été bons, avec des chiffres records. Donc on se rend compte aussi qu'Astérix, en ce moment, est un remède à la sinistrose, un remède à la crise.
Cyril Petit du Journal du Dimanche. En cette période de restrictions sanitaires, en effet, vous pouvez lire. Vous pouvez aussi écouter de la musique. Angèle Châtelier vous donne ce matin son conseil culture pour la rentrée. Angèle, 2021, c'est le retour d'un géant de la folk, Bob Dylan. Another day that don't end.
another ship going out.
La chanson est comme un tableau. Voilà ce que disait Bob Dylan dans une rare interview au New York Times 8 ans après la sortie de son album Tempest. Il ajoute, les morceaux individuels ne sont qu'une partie d'un tout. Un tout qu'il a compilé dans 10 titres prodigieux, en sortant cette année son 39e album, Ruth and Roddy Ways. Take me out traveling, you're a traveling man. Dans cet album, Bob Dylan rend hommage à l'écrivain Edgar Allan Poe, au bluesman Jimmy Reed aussi, et dans lequel il se compare aussi bien à Anne Frank, Indiana Jones et ses bad boys britanniques, dit-il, les Rolling Stones. Just like Anne Frank,
like Indiana Jones. Bob Dylan qui souvent a partagé la scène avec un autre géant, Neil Young, qui lui aussi sort un album.
C'était le même jour, quel grand jour, le 19 juin dernier. Neil Young, lui, exhumait un disque jamais sorti, Homegrown. Chanson qu'il a composée en 1975 alors qu'il sortait d'une rupture amoureuse douloureuse. C'était trop difficile, dit-il, de les partager au public à ce moment-là. Ce n'est donc que 45 ans après que nous avons pu en profiter. Walking in the rain and coming home dry. There's something missing there. It's easier to care. Neil Young a entrepris un travail titanesque, offrir à ses fans tout ce qui lui reste dans les tiroirs, dont cet album. Il a même créé pour ça un site qui s'appelle Neil Young Archive.
Et Bob Dylan, c'était donc le conseil culture d'Angèle Châtelier. En football, la fumée blanche est arrivée hier après-midi. Les joueurs du PSG ont un nouvel entraîneur. Il s'agit de l'Argentin Mauricio Pochettino. Il a signé un contrat de 2 ans. Cyril de la Morinerie nous dresse son portrait.
Cet après-midi, Mauricio Pochettino va découvrir sa nouvelle équipe. Le désormais entraîneur du PSG va vite vouloir imprimer sa marque. L'Argentin a la réputation d'être un gros travailleur. C'est une prise de contact qui peut conditionner la suite, explique Jimmy Algerino, qui a joué avec l'Argentin il y a une vingtaine d'années au PSG.
Et les premières heures, les premiers entraînements vont être très importants pour Mauricio, pour vite que les joueurs adhèrent. Et puis derrière, après, pour instaurer sa philosophie de jeu, ses objectifs.
Et lorsqu'il était capitaine du PSG, Pochettino était déjà un leader charismatique. D'ailleurs, l'une de ses qualités, c'est de savoir se faire proche de ses joueurs, confirme son ancien coéquipier à Paris, Didier Domi.
C'est quelqu'un qui voulait le leadership, il n'avait pas peur du tout, il n'a pas besoin d'osser la voix, c'est-à-dire qu'il a une autorité naturelle.
Comme Luis Fernandez ou Ricardo, Mauricio Pochettino a joué au PSG avant d'en devenir l'entraîneur, c'est le 11e dans ce cas. L'Argentin souhaite redonner un style offensif à Paris, mais aussi remporter enfin un trophée, ce qui ne lui est jamais arrivé en tant qu'entraîneur. Pochettino aura l'occasion de se rattraper dès le 13 janvier avec le trophée des champions contre l'éternel rival, l'Olympique de Marseille.
Cyril de la Morinerie, et puis il est pour l'instant le seul à avoir franchi le Cap Horn. Yannick Bestaven est toujours en tête du Vendée Globe. Il entame sa remontée de l'Atlantique.
Voilà, donc pour ceux qui ont quelques notions d'italien, c'est pas la peine de bomber le torse en disant on dit Pochettino parce qu'il y a un H derrière le C. Non, on vous dit il est argentin.
Et lui-même demande à ce qu'on donc l'appelle Pochettino.
Donc c'est Pochettino, voilà. La messe est dite. Merci. Merci Marguerite Lefebvre. Vous revenez pour une autre homélie tout à l'heure à 7h.